8h40.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Claude nous appelle de Paris. Bonjour Claude, vous êtes en direct sur France Inter.
Oui, bonjour. En fait, j'avais une question à poser à M. Ril. À propos. Alors, ma question est la suivante. Que pensez-vous de l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis? Le fait qu'il va essayer de détruire tout ce qu'a fait Obama jusqu'à présent. Et également le fait que dans son équipe, il a un ex-patron d'Exxon. Et donc, quelles seront les conséquences sur la COP21? Également sur le fait qu'on risque d'exploiter le pétrole dans l'Arctique. Et quelles seront les conséquences sur l'écosystème?
Oui, là, vous avez bien mis le doigt sur le problème majeur d'aujourd'hui. C'est l'arrivée de ce qu'on peut dire ce loup dans la bergerie qui met en question toutes les avancées récentes. Est-ce qu'il va dénoncer les accords de Paris de la COP21? Est-ce qu'il va relancer la poursuite du pétrole et du charbon? Vous savez, le pape a eu une très bonne remarque quand il est dans son dernier encyclique. Il a fait remarquer, et c'est vrai, qu'il y a des raisons morales d'arrêter d'extraire du pétrole et du charbon. C'est-à-dire, si on le dit très simplement, nous savons que ce réchauffement climatique met en danger l'humanité. Et donc, il y a un problème majeur de morale. Alors, le fait qu'il ait porté cette question, d'autres l'avaient fait avant lui, bien sûr, mais le fait que ce soit le pape a une importance plus grande, bien, le fait qu'il ait mis cela, ça élève le niveau du problème. C'est aujourd'hui un problème moral d'arrêter de prendre du pétrole et du charbon, puisque ça met en danger des millions, sinon des milliards de personnes. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, je pense. C'est un problème très grave qui se pose à nous. Qu'est-ce que M. Trump va faire? Peut-être pas lui. Je crois que lui, c'est un peu plus innocent que ça. Mais les gens qu'il adopte, les gens qu'il met dans son équipe, qui, eux, sont véritablement...
Claude en parlait, le nouveau patron de la diplomatie américaine, ex-patron d'ExxonMobil, Rex Tillerson, très proche, évidemment, des lobbies du pétrole de Vladimir Poutine, qui a signé beaucoup de contrats à l'étranger pour défendre son entreprise et qui, on peut le redouter, défendra encore le pétrole depuis Washington.
Tout à fait. Je crois que ça, c'est le problème majeur de l'heure. C'est le point sensible qui pourrait faire mal.
Philippe est au standard. Bonjour Philippe, vous nous appelez d'Ille-et-Vilaine, c'est bien ça?
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui. Donc, oui, j'aimerais savoir, parce que j'ai jamais entendu l'avis d'Hubert Rips concernant les projets importants qui peuvent avoir lieu en France, et entre autres, le projet de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, eh bien, avec le mouvement dont je suis le président d'honneur, Humanité et Biodiversité, nous avons plusieurs fois dénoncé ce projet en disant que c'est un projet qui n'est pas du tout quelque chose d'évident, quelque chose de profitable, qu'il va y avoir une destruction de la biodiversité, d'immenses territoires vont être complètement bétonnés, et nous sommes contre. Bon, c'est une question démocratique qui doit se décider d'une façon démocratique, bien sûr.
Ça a été, en l'occurrence, décidé de façon démocratique. Il y a eu un référendum.
Oui, il y a eu un référendum, mais qui n'intéressait que les gens locaux, si j'ai bien compris, qu'un référendum plus global aurait peut-être donné des choses différentes. Et je crois que c'est important parce qu'il est évident que si on fait cet aéroport, il risque d'y avoir des violences. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, de la part d'un gouvernement, de montrer que même quand il peut agir de façon violente, il ne le fait pas, serait un très bon signe à montrer. Ce serait un signe de démocratie, effectivement, d'abandonner cette possibilité de forcer une action qu'il pourrait regretter après coup.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Rives. Voilà, j'avais une question. Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté en politique par le passé? Parce que vous faites partie d'associations, ce qui est très bien, mais au sein des associations, il n'y a pas tellement d'avancées. On voit avec Greenpeace, votre association qui est sur Internet. Mais par contre, en politique, on peut faire avancer les choses beaucoup plus vite et à une échelle supérieure.
Bon, moi, j'ai choisi d'être dans le clan de ceux qui font des plaidoyers auprès de ceux qui ont le pouvoir pour qu'ils représentent bien les choses à faire, quoi. Je pense que d'être en politique, je détesterais certainement.
Pourquoi?
Je pense qu'il faut, il faut être cinglé, hein, disons les choses. Imaginez-vous,
on transmettra le message à Ségolène Royal qui était assise à votre place hier matin. Hein.
Oui, mais elle est très courageuse. Imaginez, par exemple, moi j'en dormirais pas de la nuit. Si on me téléphonait à tous les 5 minutes pour dire il y a la grève ici, sinon ça, je tiens plus ça, mon. Et puis je pense que je suis plus utile. Je crois pas que j'aurais eu des dons pour être en politique. C'est pas du tout ma tasse de thé, comme on dit. Je me sens plus à l'aise d'être dans cette position où nous rappelons au gouvernement régulièrement, vous êtes engagé pour ceci, vous avez ceci, cela, cela. Je pense que c'est un rôle qui me va mieux que ce rôle d'homme politique.
Oui, cette révolution écolo que vous appelez de vos voeux, elle se fait aussi plus modestement chez soi?
Ça, elle se fait partout, en fait. C'est un problème qui... Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'une part, nous-mêmes, notre propre comportement, et ça, vous trouvez dans toutes les bonnes librairies des livres qui vous disent 64 gestes pour sauver la planète.
Non, mais c'est quoi les gestes essentiels, à part couper l'eau pendant qu'on se lave les dents, pardon, mais faut changer son alimentation?
Élément qui ressort de plus en plus, c'est le bœuf. Aujourd'hui, on se rend compte que le fait de manger du bœuf implique, je crois, 60% de la nourriture des céréales. C'est vraiment...
Parce qu'aujourd'hui, on cultive des céréales non pas pour nourrir les hommes, mais pour nourrir les animaux qui Exactement. Vont nourrir les hommes. Oui.
Exactement. Ça, c'est un élément sur lequel qui risque d'être plus chaud, d'être plus majeur. Et puis, il y a aussi...
Donc, on limite sa consommation ou on l'arrête?
On limite. Moi, je suis pas pour la radicalité. Je pense que, au lieu de prendre un steak tous les jours, on en prend un par semaine. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça fait autant de différence, ou presque, et ça n'a pas ce côté autoritaire que je n'aime pas. J'aime bien que les gens prennent leurs décisions par eux-mêmes, qu'on ne les oblige pas à faire ceci et cela, mais qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt.
Pierre est au Standard de France Inter. Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur. Bonjour à l'équipe de France Inter et puis bonjour à monsieur Rive.
Bonjour monsieur.
Et je trouve que monsieur Rive, bon, est un monsieur d'un certain âge, donc j'aimerais quand même monsieur d'un certain âge soit un sage. Et je m'étonne qu'il soit aussi pessimiste vis-à-vis de l'avenir de l'humanité, de l'avenir des hommes, notamment. Je trouve que l'homme, depuis qu'on connaît l'histoire humaine, a fait d'énormes, a une intelligence qui lui permet de, et je pense que l'intelligence humaine devrait nous permettre de, justement, d'éviter tous ces problèmes qu'il envisage. Je comprends pas qu'il ait autant de pessimisme. Monsieur Rive, je comprends pas que vous ayez autant de pessimisme vis-à-vis de l'humanité, alors que la science montre qu'au contraire, l'homme est capable, grâce à son intelligence, de maîtriser pas mal de problèmes, notamment en ce qui concerne l'humanité. Donc, nourrir l'humanité...
On s'en sortira toujours grâce au progrès, c'est ce que vous dites en quelque
sorte,
non? Non,
grâce à l'intelligence humaine. Oui. Grâce à l'intelligence humaine, on s'en sortira toujours, et je crois qu'il faut faire confiance à l'homme et à son intelligence. L'homme a été créé par Dieu, je suis désolé, on va fêter Noël, là, bientôt.
Ça, c'est votre avis, hein, mais oui.
Quand on lit la Genèse, le septième jour, l'homme, le sixième jour, l'homme, Dieu était très content d'avoir créé l'homme. Donc, visiblement, si on lit la Genèse, il faut quand même relire ça dans cette optique-là.
On parlera de Dieu, si vous voulez bien, Pierre, dans un instant. Je poserai la question à Hubert Reeves, ce qu'il en pense. Mais sur ça, sur votre pessimisme aujourd'hui face à la situation.
Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne pense pas que je sois pessimiste. Je salue les avancées importantes de l'humanité comme étant une prise de conscience du fait que depuis à peu près un siècle et demi, ça commence quelque part en Californie avec les premiers parcs nationaux, Yosemite et Yellowstone, depuis cette période, il y a une réaction très importante de l'humanité un peu partout. Et je dirais, si je veux résumer la situation, les gens me demandent est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va plus mal, je dis les deux. Il y a un double mouvement, il y a une accentuation des problèmes de la détérioration, ça il faut être réaliste, il faut bien le voir, la déforestation se poursuit, la pollution se poursuit. Mais en même temps, il y a une réaction de restauration très rapide, on la voit un peu partout, surtout au niveau des villes. Il y a beaucoup de villes de France, par exemple, où les actions écologistes sont très importantes, où les progrès sont importants. Je pense que nous sommes devant une situation double dans laquelle il y a une force de restauration qui s'accroît face à une force de détérioration qui s'accroît aussi. Nous sommes vraiment comme dans un match. Et personne ne sait qui va gagner. C'est comme une partie de football, sauf que le résultat est plus important que le résultat de la partie de football.
Un petit peu plus.
Alors, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas pessimiste. Je pense que, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du fait que l'humanité devient de moins en moins violente. Nous avons le devoir, en peu de mots, d'humaniser l'humanité. C'est-à-dire d'essayer de faire par nos petits moyens. C'est pas un grand problème. C'est un million de petits problèmes. Le fait que l'humanité se comporte de façon de plus en plus humaine. Et je crois qu'il y a des marques, il y a des signes que cela est en train de se produire. Donc, je dirais, il faut être volontairement optimiste. Parce que quand on est pessimiste, ça va mal. C'est quand on dit que c'est foutu, que c'est foutu. Quand on dit non, je ne céderai pas, je vais continuer à me battre pour que l'avenir soit beau.
Un mot avant de retourner au standard où nous attend Paul, notamment sur quand on a, comme vous, passé 70 ans de votre vie à étudier le cosmos, notamment, est-ce qu'on s'interroge parfois sur le sens qu'il y a à tout cela, sur, appelons ça comme on veut, le grand architecte Dieu, est-ce qu'il vous arrive de vous poser ces questions-là?
Oui, tout à fait. C'est des questions que j'ai abordées souvent dans mes bouquins et sur lesquelles, d'abord, j'ai beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Je n'ai pas de certitude, loin de là. Je me pose ces questions, je crois qu'elles sont importantes. Il y a un phénomène qui est tout à fait remarquable, c'est que à cette question du sens, nous n'avons comme réponse que deux réponses qui sont à notre mesure. Les gens disent un grand architecte, un plan, le Tao, etc. D'autres disent non, c'est le pur hasard. Je crois que ça, ce sont deux solutions de facilité qui montrent les limitations de notre intelligence. Cette question du sens de l'univers, je pense, est une question qui dépasse notre intelligence. Vous savez, vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat. Parce que vous pensez bien qu'il ne comprendra pas, et de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Son cerveau est limité, le nôtre l'est aussi. Moi, je crois que notre cerveau est capable de faire des choses fantastiques, la théorie de la relativité d'Einstein, la physique quantique, tout ça, ce sont des merveilles, nous avons une merveilleuse intelligence, mais comme...
Il faut rester humble face à ce qui nous dépasse.
Voilà, comme celle de toutes les espèces animales, nous sommes une espèce animale avec un cerveau qui a de grands pouvoirs, je pense que là, nous sommes au-delà de nos possibilités.
Mais ça veut dire que vous gardiez Dieu comme une possibilité scientifique, une hypothèse dans un coin?
C'est-à-dire que je ne le mettrais pas comme un personnage. Je dirais ce qu'il y a au-delà, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si on peut lui mettre un nom à ce qu'il vous écoute quand vous priez. J'en doute. J'ai des questions, vous voyez, j'ai pas de réponse. Mais il faut admettre que nous savons une intelligence magnifique, mais limitée.
Une dernière question au standard de France Inter. C'est Paul qui nous appelle. Bonjour Paul.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question à Hubert Reeves, dans le sens que, évidemment, il faut faire plein de choses pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les énergies fossiles. Enfin, il y a énormément de choses à faire et c'est certainement pas le sens de ma question que dire qu'il faut pas faire ces efforts. Mais est-ce qu'on y arrivera tant qu'on sera aussi nombreux sur Terre? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de surpopulation évident? Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet tabou? Parce que je trouve qu'on en parle si peu. On est 7 milliards, 7 milliards et demi, on sera 10 milliards demain. Comment va-t-on y arriver si on est si nombreux? Et pourquoi y a-t-il si peu d'hommes politiques qui parlent de ce problème?
Le problème de surpopulation est un problème les plus graves que nous rencontrons aujourd'hui, c'est sûr. Comment on va nourrir tout ce monde? Je pense que nous n'avons d'abord pas beaucoup de moyens de le contrôler. Tout ce qui a été essayé dans le passé sur ce plan n'a pas marché beaucoup. Ce qui a marché très bien, c'est l'éducation des femmes. C'est le fait que les pays où les femmes ont droit à l'éducation, on voit tomber rapidement le nombre d'enfants par femme. Ça, c'est la seule solution que je je connaisse et qui marche à peu près partout dans le monde. Elle a marché en sud-est asiatique, elle a marché en Amérique du Sud. Le seul endroit où elle ne marche pas, c'est au sud du Sahara, en Afrique. Mais là, il y a des questions culturelles qui font que c'est pas si simple. Mais je pense que c'est très important de garder à l'idée le fait que d'abord, on ne connaît pas l'avenir. Personne ne peut dire c'est foutu, personne ne peut dire on va réussir. C'est la grande question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Hubert Rives, vous restez avec nous quelques instants. Si vous voulez bien, on va accueillir François Morel pour sa chronique dans quelques instants. Je voudrais aussi citer votre dernier livre, L'univers créativité cosmique et artistique avec Daniel Casanaf. C'est une bande dessinée.
Une bande dessinée, oui. C'est le nouveau moyen d'éducatif. Les bandes dessinées ont décidé d'investir dans l'éducation et je trouve ça formidable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas, mais qui lisent les bandes dessinées. Donc on arrive avec un nouveau médium pour pouvoir augmenter la connaissance chez ceux qui s'y intéressent.
François Morel, dans une minute.